France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité. Tous les matins jusqu'à 9h30, retour sur deux événements qui font l'actu. Deux débats sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Sophie de Ravinel, journaliste. Agathe. Bonjour Sophie, journaliste politique. Gilles Bornstein, présentateur des 4 vérités sur France 2. Et Jean-Rémy Baudot, chef du service politique de France Info. Bonjour Jean-Rémy, bonjour à tous les trois. On commence avec notre premier débat, Renaud. Sébastien Lecornu, Premier ministre, le double du président.
Et oui, Agathe, au suivant, hein, comme on dit à Matignon, voici donc le troisième Premier ministre depuis la dissolution de l'année dernière, le cinquième depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est donc Sébastien Lecornu. Ça tourne, c'est un peu... Tournée manège, hein, cette succession de Premier ministre à Matignon, pour rendre hommage à la figure tutélaire de cette émission, l'organiste Charles Yolec, décédé hier à l'âge de 94 ans. Sauf que dans cette émission, souvenez-vous, il y avait des mariages qui se sont conclus et qui ont duré plus longtemps. François Bayrou n'a duré que 9 mois finalement à Matignon, Michel Barnier c'était 3 mois. Combien de temps Sébastien Lecornu tiendra-t-il ? On sait qu'il a mission de la part du chef de l'État d'ouvrir des discussions, d'abord au sein du bloc central et de LR, c'est-à-dire du socle commun, pour bâtir une plateforme de gouvernement, mais aussi de se tourner vers d'autres forces au Parlement, et notamment la gauche, pour essayer de négocier un pacte de non-censure. Évidemment, son premier interlocuteur, ce sera sans aucun doute le groupe socialiste. Est-ce que les socialistes vont censurer d'emblée le gouvernement Lecornu, ou est-ce qu'ils sont prêts à discuter? Voici ce que vous répondez il y a quelques minutes sur ce plateau, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
On jugera au cas par cas. Moi, je ne veux pas donner un chèque en blanc à un gouvernement dont je ne sais pas ce qu'il fera. Parce qu'il n'y a pas seulement la politique budgétaire, il y a aussi la politique en matière migratoire, sécuritaire, en matière de logement, en matière d'éducation. Que vont-ils faire?
Que vont-ils faire, s'interroge Olivier Faure. Est-ce qu'un compromis est possible entre ces deux-là, Gilles Bornstein?
C'est une histoire de milliards d'euros, en fait. Ça dépend très exactement de la feuille de route que le président de la République a donnée à Sébastien Lecornu. Ça dépend de ce qu'ils sont prêts à lâcher. Est-ce qu'ils sont convaincus que cette fois-ci, l'échec est interdit parce que sinon, c'est retour? Enfin, pour Emmanuel Macron, si là, c'est l'échec, c'est soit dissoudre, soit se dissoudre. J'ai pas l'impression qu'il ait envie ni de dissoudre l'Assemblée nationale, ni de démissionner. C'est très clair. Olivier Faure le dit de façon assez claire. S'il donne les milliards, on sait, il faut une taxe sur les riches, vous l'appelez Zuckman, vous l'appelez exactement comme vous voulez, mais elle doit être conséquente.
C'est leur totem.
J'ai le sentiment que c'est leur totem et elle ne doit pas être symbolique. Ça doit c'est autour de 10 milliards d'euros, voire plus. S'ils sont prêts à aller là-dessus, s'ils sont prêts à entendre un certain nombre de choses... Effectivement, il y aura peut-être une voie pour la non-censure, mais c'est sûr que le fait d'avoir choisi Sébastien Lecornu rend le coût de la non-censure d'une certaine manière plus cher. Les socialistes le disaient, s'ils nous imposent quelqu'un du bloc central, on discutera, mais là, vraiment, ils vont devoir payer parce que tout simplement, ils n'ont pas censuré une fois les socialistes, s'ils doivent ne pas censurer une deuxième fois, ils doivent pouvoir dire à leurs électeurs, c'est parce qu'on a obtenu ceci, et ceci doit être conséquent. Ça ne doit pas être des gadgets.
Ça coûte très cher. Voilà. Sophie Gravinel, pourquoi avoir choisi Sébastien Lecornu ?
Eh bien, je crois qu'en fait, paradoxalement, c'est un très très proche d'Emmanuel Macron. On l'a dit, pas forcément macroniste dans la manière de faire telle que les macronistes nous l'ont montré depuis 2017, mais un vraiment très proche d'Emmanuel Macron, et pas seulement. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il est aussi proche de Brigitte Macron. C'est vraiment le dernier de celui qui est dans cette sphère quasi intime du couple présidentiel, comme s'il était dans une forme non pas de refuge, parce que l'expression serait trop facile, mais en tout cas le dernier des fidèles, des grognards. Et je pense que c'est cela, sans doute, qui a fait emporter sa décision, même si déjà, on le sait, avant François Bayrou, il avait l'intention et le projet de le nommer à Matignon. Mais évidemment, pour rebondir sur ce que vient de dire mon cher camarade, eh bien, je pense que la situation est extrêmement compliquée et que la gauche est largement prête à la dissolution.
Jean-Rémy Baudot.
C'est aussi quand même la nomination de Sébastien Lecornu, l'illustration du rétrécissement du portefeuille politique d'Emmanuel Macron. Parce que, certes, c'est un proche, c'est devenu un fidèle, ça ne l'était pas à la base, on rappelle.
Non, absolument.
Il faut quand même rappeler qu'effectivement, c'est un LR qu'il a fait la campagne de Bruno Le Maire, celle de François Fillon, quand même, c'était un peu contrarié de ce côté-là. Mais il a su, avec le temps, devenir un fidèle. Il y a beaucoup de photos, c'est très intéressant. Regardez dans la presse, depuis des années, il y a beaucoup de photos de Sébastien Sébastien Lecornu qui susurre à l'oreille du président.
Et au bras de Brigitte
voilà.
Macron.
Et donc, c'est vrai que ça, c'est un point. Après, c'est aussi, on l'a beaucoup dit, quelqu'un qui a une expérience politique de terrain, ce qu'elle n'a pas, Emmanuel Macron, maire à 27 ans, président de conseil départemental à 28 ans, sénateur à 34 ans. On ne peut pas faire ça si on n'a pas un
assez
sens politique.
Mal élu.
Oui, mais on ne peut pas avoir ce parcours si on n'est pas très politique. Et c'est probablement ce qui peut aider Emmanuel Macron, c'est-à-dire de quelqu'un de très politique qui va essayer de faire un peu des deals à droite, à gauche. On parlait de la taxe Zuckmann. S'il n'y a pas que le PS qui attend de plus de justice sociale, il y a aussi une partie de la population. On le voit aujourd'hui avec le mouvement Bloquons Tout. Et donc l'enjeu pour Sébastien Lecornu, il va être d'aller chercher des gages à droite et à gauche.
Renaud Dely.
C'est ce qu'on expliquait hier soir à l'Élysée. L'entourage du président expliquait que la première des qualités aux yeux du chef de l'État de Sébastien Lecornu, c'est d'une part d'être infidèle, un ministre qui est membre de tous les gouvernements depuis 2017, qui a accompagné la politique du gouvernement depuis le début, mais un homme de négociation, un homme de négociation qui a le sens de l'État et qui serait, en tout cas selon Emmanuel Macron, à la fois respecté à gauche, notamment à cause de ses fonctions de ministre des Armées, et puis qui a conservé de bonnes relations à LR. Ça, c'est évidemment le portrait idéal, d'où la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire d'abord d'animer, de faire vivre ce fameux socle commun qui n'avait plus grand-chose de commun ces derniers mois, et que Michel Barnier en quelque sorte scellé l'alliance entre le bloc central, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, Modem et LR, mais ensuite, ni Michel Barnier ni François Bayrou n'ont fait vivre d'une part ce socle commun, c'est-à-dire là il s'agit pour Sébastien Lecornu d'abord d'essayer de bâtir une plateforme de gouvernement et ensuite de se tourner vers les forces de gauche hors LFI pour essayer de négocier un pacte de non-censure. Ce qui est nouveau aussi dans la période, et ça c'est très clair dans l'esprit du chef de l'État, c'est qu'il s'agit plus de se tourner d'une façon ou d'une autre vers le RN pour négocier une quelconque bienveillance ou indulgence. Aux yeux du chef de l'État, Marine Le Pen a basculé très clairement du côté du dégagisme, comme Jean-Luc Mélenchon. Et elle veut une dissolution, voire un départ du chef de l'État. Donc il ne s'agit pas de faire des concessions de ce côté-là, puisque de toute façon, pour avoir une dissolution, évidemment, le RN est amené à censurer tous les gouvernements qui viendront.
C'est le Parti Socialiste qui a un droit de vie ou de mort sur Sébastien Lecornu aujourd'hui, surtout Sophie de Ravinel.
Oui, absolument. Et c'est effectivement, on pourrait dire, un pouvoir de faire le roi, mais ça va même au-delà. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de le maintenir dans son poste ou non. Et donc les socialistes le savent. Et les socialistes ont en mémoire aussi, Renaud Dely, le fait que Sébastien Lecornu avait été pris la main dans un rendez-vous plus ou moins officiel avec le Rassemblement National, un déjeuner avec Marine Le Pen.
C'était un dîner, mais c'était pas officiel, c'était un dîner privé. Ouais.
Voilà, absolument, un dîner privé.
Il y a eu des rendez-vous à Brienne aussi.
Voilà.
Et récemment, fin avril même. Est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'il a été nommé aujourd'hui?
C'est juste un petit
parce
modulo.
Qu'il a une bonne relation avec le RN.
Mais voilà, c'est un petit modulo par rapport à ce que vous disiez, Renaud Dely, parce que je pense qu'il a effectivement, et ça, la gauche le regarde très précisément et ne l'a pas du tout, c'est dans son viseur, j'allais dire. C'est un des gros éléments qui fait qu'il pourrait décider de censurer parce qu'il a effectivement, il est un bras de discussion, voire d'action avec le Rassemblement
National. Ce qu'on dit à l'Élysée, en tout cas, c'est que ses relations courtoises avec Marine Le Pen, que vous évoquez à instant, aurait pu compter en faveur de sa nomination il y a un an, ou par exemple en décembre dernier, lorsque Emmanuel Macron a été tenté de nommer Sébastien Lecornu plutôt que François Bayrou, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus un atout pour Sébastien Lecornu au regard du changement de stratégie de l'extrême droite. C'est-à-dire que dès lors que l'extrême droite a décidé de censurer tous les gouvernements, puisque si Marine Le Pen veut une dissolution, il faut que tous les gouvernements tombent, a priori, ces relations courtoises que vous évoquez à juste titre n'entrent plus en ligne de compte.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre évidemment dans une période de négociation. C'est d'ailleurs pour ça que la méthode qui va d'ailleurs être annoncée à la mi-journée sur le perron de Matignon de la part de Sébastien Lecornu, c'est changer de méthode, aller plus dans les discussions. En même temps, Olivier Faure, sur ce plateau, il y a quelques minutes, il est aussi dans le grand bluff. Parce que les socialistes n'ont aucune envie, fondamentalement, d'une dissolution. Lui-même, son poste, son siège de député, est en difficulté si d'aventure il retournait aux urnes, puisque les insoumis ne lui feraient pas de cadeau. Donc on est aussi dans un moment de posture. C'est normal, ça fait partie des négociations. C'est normal que ce matin, Olivier Faure n'ait pas dit « voilà ma feuille de route et voilà ma ligne rouge précise ». Néanmoins, il ne faut pas être dupe de ce jeu de bluff, encore une fois, qui est en train de se mettre en place.
Mais ce n'était pas hyper clair. On a compris qu'Olivier Faure voulait une taxe sur les plus riches. Sur la retraite à 62 ans, il ne répond pas vraiment. Sur le montant des économies, il ne répond pas non plus très précisément. Concrètement, Gilles Bernstein, est-ce que vous voyez deux, trois points sur lesquels on pourrait s'accorder de la droite de Bruno Retailleau à Olivier Faure pour le budget?
Sur la retraite, c'est assez compliqué parce que ce que j'ai appris, c'est que dans leur plan écrit à Blois l'exigence des socialistes, la suspension de la réforme de retraite est venue très tardivement et elle est venue pour une seule raison, parce que l'intersyndicale avait exigé cette suspension avec la signature de la CFDT. Dans un premier temps, les socialistes étaient prêts à ne pas faire de la réforme des retraites un casus belli. Comme la CFDT le demandait, le PS peut difficilement être moins 10 ans vis-à-vis de la CFDT. Donc oui, je pense qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de rien sur la réforme des retraites. Mais ils pourraient se satisfaire... Alors,
De discussion, de réouverture, il faut discuter,
nouveau colloque qui s'appellerait pas colloque et qui se passerait mieux.
Conclave, où le MEDEF
serait moins. Enfin, voilà. Ils voudront quelque chose, mais oui, il y a peut-être un peu du grain à moudre sur la retraite. Là où ils ne céderont pas, c'est sur, effectivement, une taxe sur les plus riches. Il y a autre chose, c'est ce qu'il faut sur la droite. Parce que, par exemple, elle aussi doit rester au gouvernement. Ce qu'on dit chez les Républicains, c'est que Bruno Retailleau ne restera pas au gouvernement s'il n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent. On parle par exemple d'une grande loi sur la sécurité au quotidien, sur les polices municipales, sur les rodéos nocturnes, sur
c'est intéressant, ça.
Sur les mortiers.
Donc la droite pourrait accepter par exemple une taxe sur les plus riches à condition d'avoir sa grande loi sur la sécurité que le Parti socialiste accepterait parce qu'ils auront eu la taxe sur les plus riches.
D'autant que cette loi sur la sécurité au quotidien, tous les maires socialistes soumis à réélection, je pense aux maires de Clermont-Ferrand, de Dijon, où il y a quand même des incidents tout le temps. Je pense qu'une loi sur la sécurité au quotidien, leurs administrés, même socialistes, la demandent. Donc c'est un moyen de trouver chacun dans le... Même à droite, il y a des gens qui demandent de la justice fiscale. Donc oui, une taxe sur les hauts patrimoines, ça peut passer à droite si c'est raisonnable. Une loi sur la sécurité au quotidien, ça peut passer à gauche si c'est raisonnable.
Alors tout le monde veut réagir,
Quand on veut s'entendre, on peut.
Sur la méthode, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est forcément une forme de troc. Il faut un morceau d'un côté, un morceau de l'autre. Si jamais, pour que ça tienne, l'Élysée, on dit que c'est pas une méthode impossible, mais inédit. C'est inédit au regard de notre culture politique, de la Ve République. Pour que ça tienne, il faut effectivement lâcher aux uns et aux autres. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de constituer une coalition de gouvernement avec tout le monde à l'intérieur du gouvernement. Il ne s'agit pas de faire rentrer des ministres socialistes, écologistes ou communistes au sein du gouvernement. Pas du tout. C'est de garder la même configuration du gouvernement, celle qui est actuelle. Ça tombe bien, parce que Olivier Faure l'a redit tout à l'heure, il n'est pas question qu'il y ait des ministres socialistes qui rentrent au gouvernement. Mais il faudra, pour négocier cette non-censure, lâcher aux uns et aux autres. Et là, on est au cœur du problème. C'est que si Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qu'il faudra retirer ou qui sont refusées, on peut imaginer par exemple que la suppression des deux jours fériés envisagée par François Bayrou passe à l'as.
Personne n'y croit à cette
mesure. Que l'effort de réduction de déficit ne soit pas de 44 milliards mais de quelques milliards de moins, etc., etc. Sur le fond, il faut bien comprendre que Emmanuel Macron reste attaché à la poursuite de sa politique économique, sa politique de l'offre, la compétitivité, l'augmentation du travail, la réforme des retraites aussi. Et on voit bien que sur le fond, les marges de manœuvre de Sébastien Lecornu risquent d'être assez modeste.
Alors très court, si vous y arrivez, Jean-Yves.
Mais avec des LR qui seraient, à mon avis, prêts à se mettre à table. Observez, moi j'en ai discuté hier avec une figure importante de LR, observez les éléments de langage, en tout cas les messages qu'ils font passer. Ils vont parler évidemment de la retraite, mais ils vont aussi parler de la drogue, ils vont parler de ce genre de choses qui sont leur retraite, leur ligne rouge. La fiscalité des classes moyennes, ils vont être à cheval là-dessus. Par contre, effectivement, sur les hauts patrimoines, etc., on va moins entendre la droite sur ce sujet-là.
Un petit mot, Sophie.
Avec une restriction sur ce schéma sécurité dont vous parliez, cette grande loi sécurité qui est celle des libertés publiques et qui, à gauche, me semble-t-il, est un point extrêmement important. On l'a vu cet été avec l'adoption d'un schéma national des violences urbaines, dans lequel la question de la possibilité de la participation de la presse dans ces violences urbaines
était encadrée.
C'est une ligne rouge pour la gauche, très certaine.
Moi, je pense que sur la sécurité au quotidien...
Je parle des questions des libertés
individuelles. Surtout à l'approche des municipales.
À l'approche des municipales, il y a un certain nombre de choses qui gênent les maires. Enfin, franchement, les rodéos nocturnes, il n'y a pas
un maire... On est tout à fait d'accord. Je pense que
Lecornu est assez intelligent pour mettre dans une loi quelque chose qui, non seulement ne serait pas urticant pour le PS, ils ont voté la loi narcotrafic. Ils le feraient endosser par un gouvernement de droite, mais leurs élus, à mon avis, ne seraient pas contre.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Retour sur le plateau des informés avec Sophie de Ravinel, journaliste politique, Gilles Bornstein, les 4V sur France 2 et Jean-Rémy Baudot, le service politique sur France Info. On passe à notre deuxième débat. Bloquons tout. De quoi cette mobilisation est-elle le nom?
Bloquons tout, c'est le mot d'ordre donc de cette mobilisation aujourd'hui. Un mouvement, on sait, qui a été lancé sur les réseaux sociaux, en particulier sur Telegram. Comment est-ce que ce mouvement va se traduire? Est-ce qu'il peut prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il peut être durable? C'est pas un mouvement initié hein, par les partis politiques et encore moins par les organisations syndicales, mais certains partis politiques appellent franchement à y participer. Au premier chef, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui défendaient avant-hier sur le plateau du 20h de France 2 la nécessité de se mobiliser dans ce mouvement, mais en disant attention, attention, pas de violence. Jean-Luc Mélenchon.
La révolution citoyenne à laquelle j'aspire se fait par les urnes. Les méthodes d'action doivent être des méthodes d'action non violentes ou pacifiques, choisissez le mot que vous voulez.
Merci.
Et je pense que n'importe quoi d'autre, et je le dis les yeux dans les yeux à tous ceux qui m'écoutent, ne faites rien d'autre que des choses qui soient maîtrisées et calmes, parce qu'ils s'en serviront pendant des heures. S'il y a un cajot qui brûle quelque part, ils vont le filmer pendant des
Merci.
Heures.
Alors, avec ce risque de violence hein, qu'on a vu dans un certain nombre de mobilisations ces dernières années, Jean-Luc Mélenchon met en garde contre ce risque-là. Bloquons tout, c'est donc le mot d'ordre de ce mouvement. À l'heure qu'il est, il y a des actions à un certain nombre de villes de France, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose de bloqué.
Est-ce que 75 interpellations pour Paris,
voilà.
Pour l'instant.
Il y a un très important service d'ordre, hein, des forces de l'ordre, 80 000 membres des forces de l'ordre déployés. D'ailleurs, du côté de l'Élysée, on fait savoir qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, malgré la démission de François Bayrou, et que l'ordre sera respecté, rétabli. Donc, est-ce que ce mouvement peut prendre de l'ampleur? Quel sens lui donner? S'agit-il d'un retour des Gilets jaunes avec la contestation du pouvoir et des politiques qu'avait engendré ce mouvement, ou est-ce que finalement ce mouvement peut faire flop en quelque sorte?
C'est le retour des Gilets jaunes, Jean-Rémy?
C'est une forme qui est différente. Je pense qu'on l'a suffisamment dit, notamment parce que les Gilets jaunes étaient partis sur une question de taxation. C'était assez concret. Là, le mouvement était un peu nébuleux. Il commence au creux de l'été, sur des forums, sur des boucles Telegram. Et c'est aussi néanmoins le budget Bayrou qui en est le détonateur. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a été aussi récupéré d'un point de vue politique. Les syndicats se sont beaucoup demandé s'ils devaient soutenir ou pas, jusqu'à cette espèce de récupération ultime qui a été celle de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. C'est un moment important parce que ça dit aussi quelque chose de comment est-ce que la base et le peuple peut aussi dépasser, au sens de passer outre les différentes organisations. Et la question qui se pose derrière ça, c'est qui a intérêt au chaos. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'évidemment il faut rien brûler, mais lui ça l'arrange bien dans son narratif, dans son discours, que
des gens soient dans la rue.
Voilà. Donc il faut quand même se demander. Ce que ça, voilà, peut-être qu'on en saura plus. Il y a des études qui auraient montré que ce serait un mouvement beaucoup plus à gauche, que l'extrême droite en serait un petit peu sortie. Honnêtement, on verra ça ce soir. Il ne faut pas oublier le fond de l'histoire, qui est aussi des revendications sociales, de justice sociale, pour revenir à notre débat précédent. Donc, il faut faire attention à nous aussi, médias, comment on montre ces éventuelles manifestations et ces éventuelles violences. Ça n'est pas qu'un mouvement erratique. Il y a aussi, quand même, dans le fond, des Français qui s'interrogent sur leur pouvoir d'achat, sur la manière dont ils sont gouvernés. Et ça s'exprime aussi aujourd'hui dans la rue comme ça.
Avec ce mot d'ordre, Gilles Blocontou, je vous vois hocher la tête.
Je suis assez d'accord avec Jean-Rémy. Je trouve que ce mouvement est très compliqué. Est très compliqué à analyser. J'ai lu, comme Jean-Rémy, cette étude de la Fondation Jean Jaurès montrant quand même une mobilisation assez idéologique de
gens... Un mouvement noyauté par l'ultra-gauche, disent
par des gens qui auraient voté à 77% Jean-Luc Mélenchon et à 10% Philippe Poutou, donc un mouvement noyauté 10% Philippe Poutou, c'est quand même beaucoup.
Après, la méthodologie, il peut y avoir un biais de réponse sur ce
Il peut y avoir un biais de réponse, absolument, mais donc ça serait quand même des gens assez... avec une culture politique importante, plutôt de... qui ne sont pas... qui sont des gens qui travaillent, qui sont des gens insérés dans le système, etc. Par ailleurs, j'ai vu des interviews de restaurateurs, vous savez, ce mouvement pour qu'on puisse payer ailleurs qu'autrement qu'en carte bleue, il faut dire les choses clairement. C'est des restaurateurs qui disaient quand même, avec les cartes bleues, on ne peut pas faire du black.
Bah oui, bien sûr.
Donc, non, mais c'est vrai. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment, vraiment de tout. Et je suis d'accord qu'il faut être très prudent sur l'analyse maintenant. Je ne sens pas quand même un pays complètement... Je ne crois pas que ce soir, on constatera un pays complètement bloqué.
C'est quoi la cible de ce mouvement, Sophie de Ravinel? C'est Emmanuel Macron? C'est François Bayrou? C'est qui?
C'est le monde politique parisien, globalement. On a senti quand même une colère dans le pays qui reste extrêmement forte, qui s'accroît, vu le nombre de premiers ministres et l'espèce d'indécision qui semble être de mise à la tête de l'État. On vous le dites très bien, Jean-Rémy, il y a une forme de colère, quand même, de grondement qu'il ne faut pas négliger à la base, même si effectivement il y a de la récupération. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est s'il y aura à la base, dans le monde ouvrier, indépendamment même des centrales syndicales qui ont plutôt appelé à se mobiliser le 18 septembre, donc dans 8 jours, est-ce qu'il y aura des blocages d'endroits stratégiques, industriels? Et c'est ça, à mon avis, qu'il faudra vraiment regarder ce soir et qui ferait la différence par rapport à d'autres mobilisations précédentes.
Le mot de la fin.
Le problème, c'est que cette colère sociale, ces attentes sociales, elles existent dans le pays. On les avait vues de façon spectaculaire au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et à la fois, elles ont du mal à se concrétiser, à s'organiser. Et plus les organisations politiques s'en emparent, et en l'occurrence, par exemple, la France Insoumise, plus ça peut nuire, y compris d'ailleurs au développement et à l'ampleur de ce mouvement. Puisque si jamais ça devient un mouvement qui est à la solde d'un parti politique, évidemment, ça peut réduire l'ampleur de cette protestation. Donc c'est vrai qu'il faudra regarder précisément ce soir et dans les jours qui viennent si ce mouvement prend de l'ampleur, s'il est durable ou s'il s'agit finalement d'un feu de paille.
Merci beaucoup les informés, merci Sophie de Ravinel, merci, journaliste Kat. Politique, merci Gilles Bornstein, présentateur des 4V sur France 2, merci Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique de France Info. Nous, Renaud, on se retrouve demain.
À demain, Gat.
Et vous retrouvez les informés ce soir à 20h, comme tous les jours, avec Victor Matet.